Aujourd'hui, bonjour, bienvenue à tous. Une journée de célébration, une journée de joie. Célébration de baptême, de joie, de fête. Aujourd'hui, on célèbre 7 personnes qui ont reçu Jésus dans leur vie et qui vont aujourd'hui publiquement déclarer leur amour et leur attachement à Jésus. On était extrêmement fiers d'eux et c'est un privilège de vivre ce moment-là avec vous ce matin, avec vous trois et avec les 4 autres à la deuxième réunion ce matin. Juste avant de vous plonger dans l'eau littéralement, quelques mots à propos du baptême biblique. Vous savez, le baptême d'eau biblique, c'est quelque chose d'extraordinaire qui prend place depuis le tout début de l'histoire de l'Église. Et la façon dont le baptême est fait dans la Bible, c'est par immersion. Le mot baptême vient du mot grec baptizo, qui signifie plonger complètement submergé, ou de bapto, qui veut dire plonger submergé. Et comme à l'époque, on utilisait ce mot-là pour décrire le verbe quand on prenait un tissu et qu'on le plongeait dans une teinture. Au début, le tissu était d'une certaine couleur et lorsqu'il était plongé dans la teinture et qu'on le ressortait, le tissu était d'une autre couleur. Lors du dernier baptême, j'ai demandé à mon acolyte Francis de m'aider avec une illustration et j'avais un bassin comme ça d'eau colorée bleue et j'ai trempé quelque chose là-dedans pour exprimer ce que je vous dis ce matin, mais j'ai eu les mains bleues pendant des jours et des jours. Donc, j'avais l'air du schtroumpf, fait qu'on voyait mes mains comme ça et donc j'ai décidé de pas le faire ce matin, mais vous comprenez l'idée. On est trempé. On est trempé dans le baptême, on est trempé comme ça, et quand on ressort, on est une personne différente. C'était le mot aussi utilisé lorsqu'il y avait un naufrage de bateau. Donc, lorsque le bateau coulait au fond de l'eau, on disait le bateau est bapto. Il est baptisé, il est coulé au fond de l'eau, et on va vous ressortir de l'eau, ne vous inquiétez pas aujourd'hui. Mais c'est l'idée de l'immersion, l'idée d'être complètement immersé dans l'eau. Le baptême d'eau, c'est un geste aussi d'obéissance. Vous connaissez ce texte dans la Bible, dans Matthieu 28, 18, qui dit « Jésus s'approcha et leur dit, « Tout pouvoir m'a été donné sur le ciel et sur la terre. Allez donc, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Le baptême d'eau, c'est un commandement pour tout croyant, pour toute personne qui place sa foi en Jésus. Nous sommes appelés à nous faire baptiser. Pourquoi c'est si important? Parce que la vie chrétienne, bien qu'au début, ça soit quelque chose de très personnel, individuel, la vie chrétienne, c'est aussi quelque chose de public. Et quand on se fait baptiser, on dit publiquement à la terre entière que je suis chrétien. J'appartiens à Jésus. J'ai donné ma vie à Jésus et je le déclare en me faisant baptiser, en m'associant à Jésus par le baptême d'eau, par un geste d'obéissance. Il y a aussi ce texte dans Marc 16, à partir du verset 15, qui dit, « Puis il leur dit, « Allez dans le monde entier proclamer la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. » Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. La Bible nous enseigne aussi que le baptême d'eau, c'est quelque chose qu'on fait au début de notre vie chrétienne. Au début de notre vie chrétienne, c'est pas quelque chose qu'on a besoin d'être 100% transformé, digne et assez bon. Donc, quand on donne notre cœur à Jésus, quand on s'approche de lui, qu'on lui donne notre vie, nous sommes qualifiés pour nous faire baptiser. Je vous lis un texte dans Acte 2, verset 37 et les versets suivants. C'est lors de la Pentecôte, Pierre va prêcher à plein de gens qui sont là, qui sont là autour d'eux. Et voici ce qu'il va dire. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché et dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Frères, que ferons-nous? » Pierre leur dit, « Changez d'attitude ou encore repentez-vous. » On va voir ce mot-là plus tard dans la réunion ce matin. « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. En effet, la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. » Verset 40. « Et par beaucoup d'autres paroles, il rendait témoignage et les encourageait en disant « Sauvez-vous de cette génération pervertie. » Ceux qui acceptèrent sa parole furent donc baptisés ce jour-là. Le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 personnes. La première journée de l'Église, comme on la connaît, de l'Église officiellement comme on la connaît aujourd'hui, on vient de la lire ensemble, cette première journée-là. Cette journée-là a commencé par un méga baptême d'eau. 3000 personnes qui ont été baptisées au jour 1 de l'histoire de l'Église. Hein? Les disciples devaient être en forme à force de baptiser le monde dans l'eau. Pas besoin d'aller au gym cette journée-là. 3000 personnes. Wouhou! Hey, je te dis, les gens avaient soif, les gens avaient faim. Les gens voulaient savoir qu'est-ce que je fais maintenant, que je veux suivre Jésus. Oui, on place notre foi en Jésus. Oui, on se repent de nos péchés, mais aussi on se fait baptiser. Ça fait partie du processus normal chrétien depuis plus de 2000 ans. Le baptême, c'est aussi un symbole qui est puissant. C'est un symbole qui est puissant, le baptême d'eau. Colossiens 2, verset 8. « Faites attention que personne ne vous prenne au piège par la philosophie, par des tromperies sans fondement qui s'appuient sur la tradition des hommes, sur les principes élémentaires qui régissent le monde et non sur Christ. En effet, c'est en lui qu'habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en lui qui est le chef de toute domination et de toute autorité. » Et juste avant d'aller au verset suivant qui nous parle justement du symbole puissant du baptême, je fais une petite parenthèse ici sur le verset 8. Ici, il y a un avertissement. Le texte nous dit « Fais attention! Fais attention que personne ne vous prenne au piège par la philosophie, par des tromperies sans fondement qui s'appuient sur des hommes ou sur des principes élémentaires qui régissent le monde et non sur Christ. » Et aujourd'hui, on se fait baptiser et on déclare que Jésus est le seul Dieu. Il n'y en a pas d'autre. On veut aussi déclarer que si Jésus est le seul Dieu, qu'il est le seul chemin qui mène vers Dieu, la Bible nous encourage à faire attention de ne pas tomber dans les pièges, dans les philosophies, les tromperies, et de faire attention que Dieu soit le centre de notre vie. Il y a tellement de courants de pensée dans ce moment-ci sur la planète et au Québec. Des modes, des phrases clichés, des façons de penser sans fondement, diverses religions. On dit des phrases comme « Oh, lance-le dans l'univers, ça va te revenir. » Ou « On se connecte aux éléments de la nature. » Ou « On remercie la vie. » Ou « On invoque diverses divinités ou soi-disant divinités. » Ou « On prend des décisions en fonction des astres, de l'astrologie, de l'alignement des astres ou encore des phases de la lune. » Ou toutes les pratiques méditatives qui existent, qui vous promettent toutes sortes de choses au niveau spirituel. Mais j'aimerais déclarer aujourd'hui, même si je ne me ferais peut-être pas autant d'amis que je voudrais, j'aimerais déclarer que toutes ces pratiques vont vous décevoir. Toutes ces pratiques vont vous décevoir. Jésus, lui, ne vous décevra jamais. Il est l'authentique. Il est le vrai. Il est le Dieu unique. Et aujourd'hui, les gens se font baptiser parce qu'ils viennent déclarer « C'est Jésus qui a changé ma vie. » C'est pas la religion, c'est pas la pratique d'une telle façon de penser ou autre. C'est Jésus qui a changé ma vie. Rien n'égale l'authentique. Aimez-vous ce qui est authentique? Aimez-vous ce qui est vrai? Ce qui ne déçoit pas? Y a-t-il des fans de Côte Levée dans ce lieu? Attends un peu, là, j'ai de la lumière. Là. Je veux voir des mains. Y a-t-il des fans de Côte Levée? On a le technicien de son qui se fait aller les mains. Il loue plus Jésus en ce moment que pendant la louange. Pour les fans de Côte Levée, il n'y a rien de pire que des mauvaises Côte Levée. Êtes-vous là? T'es au resto, tu commandes des Côte Levée, tu t'assois. Et là, ça arrive. Et là, il y a la promesse, il y a l'espoir. L'espoir de ce rack qui va combler ta vie. Et là, c'est reluisant. C'est de la belle sauce barbecue. C'est beau. Ça sent bon. Et là, tu goûtes à ça. Et là, parfois, la déception qui envahit ton cœur, qui détruit ton âme, c'est sec. Ça pogne des dents. La sauce, ça goûte rien. Elle n'est pas sucrée. Elle n'est pas piquante. Elle ne goûte pas grand-chose. C'est fade. Et là, tu manchouilles ça, puis pendant des jours, t'es pogné avec des vestiges de côte levée entre les dents. Et des gencives sont blessées. J'aimerais vous dire qu'il existe autre chose, comme dirait Luc Dumont. Il existe mieux. Il existe des côtes levées tendres qui ne déçoivent pas et qui comblent le ventre. Je fais des blagues ce matin, bien sûr. Mais ce que je veux dire aujourd'hui, c'est recherche ce qui est authentique, ce qui est vrai, ce qui ne déçoit pas. J'aimerais te dire ce matin, Jésus ne te décevra jamais. Il est le Dieu réel et authentique. Alléluia! Le symbole du baptême, verset 12. « Vous avez en effet été ensevelis avec lui par le baptême. » Et vous êtes aussi ressuscité en lui et avec lui par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité. Quand quelqu'un s'est fait baptiser, cette personne-là s'associe à la mort et à la résurrection de Jésus. Cette personne-là également vient déclarer la mort à son ancienne vie et la vie à sa nouvelle vie. C'est pas parce qu'on est à l'église Nouvelle Vie que je dis ça, là. Mais quand tu vas dans l'eau, ça représente je meurs à mon ancienne vie sans Jésus, mon ancienne vie sans espoir, mon ancienne vie de douleur, et je me relève dans ma nouvelle vie avec un cœur transformé, une espérance que Dieu existe, que Dieu est là, que Dieu prend soin de moi. Oui, ma vie ne sera pas parfaite, mais Dieu est là et j'ai une espérance aussi que je vais le rejoindre après ma mort. Ancienne vie, nouvelle vie. C'est ce qui se passe quand on se fait baptiser. C'est fort, le symbole du baptême. Là, c'est bien beau parler de baptême, mais aimeriez-vous ça ce matin? Voir des baptêmes et participer à ces baptêmes-là? Yes? Ce matin, on a trois baptisés. Comment ça va fonctionner? C'est que je vais lire un extrait de leur témoignage. Et pendant que je vais lire leur témoignage, ils vont se placer dans l'eau comme ça. Et on a Eric aussi qui est là pour les accompagner et les baptiser ce matin. Et quand j'aurai fini de lire leur témoignage, j'ai invité les musiciens d'ailleurs à s'avancer tout de suite. On est vraiment rendu là, à venir rapidement. Et je vais avoir fini de lire leur témoignage, il va y avoir le baptême qui va prendre place. Et après, on va les applaudir et les féliciter. OK, vous êtes là? Ça va, tout le monde comprend le plan de match? Quelle joie, quelle célébration. On va commencer avec Karine ce matin. Je vais inviter Karine à s'approcher. Pendant qu'elle s'approche, je vais lire une portion de son témoignage. Je demande d'être attentif. Karine a été élevée par une femme exceptionnelle, sa grand-mère, ainsi que par sa tante. Elle a grandi dans un environnement catholique non pratiquant. Elle connaissait une certaine base de qui est Jésus. Karine a toujours été une personne négative et avec une faible estime de soi, remplie de jugement. À 17 ans, elle a rencontré son conjoint Jimmy. Ils ont eu 5 enfants. Au début de leur relation, son conjoint l'a amené à l'église Nouvelle-Vie Longueuil. Ils sont allés quelques fois, mais sans plus. Ils ont commencé à aller à l'église Nouvelle-Vie Drummondville pour son ouverture. Il y a environ un an, elle a réellement ressenti le besoin de Dieu dans sa vie. Et elle a donné sa vie à Jésus de tout son cœur. Les changements dans son cœur et dans sa vie se font progressivement. Elle ressent la paix. Elle a plus d'amour et de compassion envers les autres personnes. Elle ne ressent plus le besoin de juger ou de critiquer. Elle a confiance en Jésus. Elle ressent son amour et sa présence. Elle a arrêté de faire ou de dire certaines choses que Jésus n'approuverait pas. Elle essaie de vivre selon ce que Jésus demande. Aujourd'hui, Karine veut se faire baptiser, car c'est ce que Jésus demande. Elle veut lui obéir. Elle veut démontrer publiquement tout son amour, sa reconnaissance et son obéissance envers Jésus. Amen. À la fin de la réunion, on va réaccueillir les trois qui se font baptiser pour les féliciter une deuxième fois. Je vais maintenant inviter Annie à s'approcher. Annie a toujours cru en Dieu. Elle a grandi dans une famille catholique qui l'amenait souvent à l'église. Durant son enfance et son adolescence, elle a vécu des événements difficiles qui l'ont portée à se réfugier dans l'isolement. En cultivant sa solitude, elle avait l'impression de développer son autonomie et d'être maître de sa vie. Elle voulait être libérée de toute influence ou relation potentiellement toxique. La foi continuait à faire partie de sa vie, mais Annie reconnaît qu'elle ne suivait pas le plan de Dieu, mais le sien. Arrivée dans sa jeune vie adulte, Annie a décidé de mettre 100% de son attention sur son mari, ses enfants et son entreprise, de sorte qu'elle s'est presque totalement déconnectée de Dieu, de ses parents et amis. Cette décision a énormément nui à son équilibre mental, parce que même si sa vie en tant que femme et mère était riche, elle se sentait vide à l'intérieur. À 40 ans, Annie a commencé à avoir la sensation qu'elle était en train de passer à côté du plan de Dieu pour sa vie. Elle s'est mise à le prier pour avoir le courage de briser son isolement et de réparer toutes les relations brisées. C'est à partir de ce moment que des miracles se sont produits dans sa vie. Depuis un an, Annie vit une très belle transformation grâce à Dieu. Elle se sent fortifiée par lui. Elle se sent confiante de suivre le plan qu'il a dessiné pour elle. Aujourd'hui, Annie se fait baptiser pour sceller une alliance avec Dieu, pour montrer qu'elle veut se laisser être au cœur de sa vie pour témoigner publiquement que Jésus l'a sauvée. Je vais inviter maintenant Mélanie à s'approcher. Mélanie s'est toujours identifiée comme étant catholique. Elle savait que Dieu existe, mais elle ne se préoccupait pas de lui. Elle a longtemps mis Dieu de côté. Pendant longtemps, elle a souffert de crises d'anxiété. Elle se sentait seule dans ce débat avec la panique. Un jour, une amie lui a parlé de l'église Nouvelle Vie à Drummondville. Elle l'invitait souvent à venir aux réunions. Étant curieuse, elle accepte enfin. Au départ, elle venait pour venir voir le band qui jouait de la bonne musique. Cette première fois, l'église a changé sa vie. Les gens étaient chaleureux et accueillants. Le message du pasteur lui parlait directement et la louange venait la chercher dans son cœur. Pour Mélanie, cette église reconnaît que nous ne sommes pas tous au même niveau dans notre chemin avec Dieu. L'église ne nous force pas à croire. Ça vient de nous et ça commence avec nous. Elle aime aller à l'église. Sa perception de Dieu et de Jésus n'est plus la même. Elle voit Dieu comme un père qui peut l'aider quand elle a besoin. Elle prie pour que Jésus l'aide dans ses moments d'anxiété. Quand c'est trop, elle écoute les chansons de louange et elle arrive à se reposer. Aujourd'hui, Mélanie se fait baptiser pour démontrer qu'elle est vraiment une fille de Dieu. Elle veut que Jésus soit toujours avec elle et pour sa part, elle se fait baptiser pour être plus proche de Dieu et approfondir sa foi en lui. Est-ce qu'on peut applaudir le Seigneur pour nos trois baptisés? On va les accueillir dans un instant. Vous pouvez prendre place. Ce matin, félicitations aux baptisés. Wow, Dieu est bon. Nous sommes fiers de vous. Et ce matin, avant de les réaccueillir et les féliciter, il y en a aussi un verre de mousseux sans alcool pour tout le monde ce matin à la fin de la réunion. J'ai quelques paroles que j'aimerais vous communiquer ce matin que Dieu a touché mon cœur cette semaine. Et je pense que ça serait approprié et important pour plusieurs d'entre nous. Vous savez, quand on parle de baptême d'eau dans la Bible, souvent, c'est associé au mot repentance. Quand on parle de baptême, on parle souvent de baptême de repentance. On regarde ici dans Marc 1, verset 4, qui dit « Jean parut, il baptisait dans le désert et prêchait le baptême de repentance pour le pardon des péchés. Avant sa venue, Jean avait prêché le baptême de repentance à tout le peuple. Alors Paul dit « Jean a baptisé du baptême de repentance en disant au peuple de croire en lui qui venait après lui, c'est-à-dire Jésus le Messie. » Et ce matin, j'aimerais prendre quelques minutes pour vous parler de ce mot qui parfois est mal aimé ou mal compris dans l'univers chrétien, le mot repentance. En fait, quand on parle de repentance bibliquement, on veut dire ici un changement de mentalité ou d'intention. On parle aussi d'une tristesse qu'on éprouve de ses péchés et de la douleur d'avoir offensé Dieu. On parle aussi d'un changement de comportement, d'un mouvement vers Dieu et de changement de vie au complet. Dans 2 Corinthiens 7, on voit ici un texte qui nous invite justement à la repentance et un changement radical. Voici ce que ça dit. « Puisque nous avons de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de tout ce qui souille notre corps et notre esprit et poursuivons jusqu'au bout la sainteté dans la crainte de Dieu. Et quand on donne sa vie à Jésus, quand on découvre Jésus, au départ, ça demande de nous la repentance. Ça demande de nous qu'on vienne à Dieu et qu'on reconnaisse ses torts, qu'on reconnaisse ses péchés, qu'on reconnaisse ses douleurs, ses problèmes. Et lorsqu'on vient à Jésus, on se repent, on s'humilie devant Dieu, on lui présente nos péchés, nos erreurs, on les place devant lui. Et là, alors qu'on se repent, qu'on décide de changer de direction, la grâce, l'amour et le pardon de Dieu nous est accordé. Et ça, c'est ce que je souhaite à tout le monde de vivre dans ce lieu. Ce salut, cette nouvelle naissance, cette rencontre avec Jésus, et ça passe par un cœur qui vit et qui expérimente la repentance. Maintenant, ce matin, ce qui est important de comprendre aujourd'hui, c'est que la repentance n'est pas réservée seulement à un acte au début de notre vie chrétienne. Dieu appelle chaque chrétien à vivre régulièrement dans cette attitude de repentance. Ce cœur qui regarde à sa vie, qui regarde à son cœur, qui regarde à sa façon d'agir et qui vient devant Dieu et qui dit « Seigneur, est-ce que tu veux changer quelque chose en moi? Est-ce que tu veux transformer quelque chose dans ma vie? » Dans ce texte qu'on vient de lire, on voit ici, ça dit « Purifions-nous de tout ce qui souille notre corps, notre esprit et poursuivons jusqu'au bout la sainteté dans la crainte de Dieu. » Le verset 8 nous dit « Même si je vous ai attristé par ma lettre, je ne le regrette pas. Et si je l'ai regretté, car je vois que cette lettre vous a momentanément attristé, je me réjouis maintenant, non pas de ce que vous avez été attristé, mais de ce que votre tristesse vous a amené à changer d'attitude ou encore à la repentance. » Et dans cette lettre, Paul va faire des reproches, des réprimandes, et des rappels aux gens de Corinthe. Et les gens ont été attristés par ces reproches. C'est sûr que si tu reproches quelqu'un qui a mal agi, cette personne-là peut être attristée. Et la Bible nous dit que cette tristesse qui est dans notre cœur lorsque Dieu nous reprend, c'est une tristesse qui est bonne. C'est une tristesse qui nous conduit à la repentance. Et lorsque nous avons un cœur humble et repentant, nous sommes dans une condition pour nous approcher de Dieu. La Bible dit que Dieu fait grâce aux humbles, mais que Dieu résiste aux orgueilleux. Et ce matin, si tu veux t'approcher de Dieu, si tu veux découvrir Jésus, ça passe par un cœur qui est humble, par un cœur qui est repentant, par un cœur qui vient devant Dieu et qui dit « Seigneur, j'ai mal agi. Seigneur, je ne suis pas parfait. Seigneur, j'ai péché. Seigneur, je te présente ma vie. » Et quand tu vis avec cette attitude-là, c'est la grâce de Dieu qui te touche. C'est une tristesse qui est positive, la tristesse qui précède la repentance. C'est une tristesse qui est joyeuse. Ça se peut pas, une tristesse joyeuse. Oui, ça se peut. C'est quand on se repent de nos péchés que le Seigneur s'approche de nous. C'est vraiment ce que Dieu nous appelle ce matin. Oui, c'est un jour de joie et de célébration, mais j'aimerais vous proposer aussi que ça peut aussi être une journée d'introspection. Ou en tant que croyant, on s'arrête aujourd'hui puis on regarde dans nos vies puis on dit « Seigneur, je vois ces baptêmes d'eau, ces gens-là se sont tournés vers toi, ils se sont repentis. Seigneur, moi j'en suis où en ce moment? J'en suis où dans ma vie chrétienne? » Un moment d'inspection, un moment où on regarde à soi-même. Comment tu vas? Quel est l'état de ton cœur? Est-ce qu'il y a des choses dans ta vie qui souillent ton corps ou qui souillent ton esprit? Est-ce que tu es vraiment en train de poursuivre la sainteté dans la crainte de Dieu? T'en es où là-dedans aujourd'hui? Comme chrétien, il faut faire attention à ne pas tomber dans le piège où on limite la repentance au début de la vie chrétienne. J'ai vu trop souvent des chrétiens, au début de leur vie chrétienne, dire « Seigneur, pardonne mes péchés », puis après ça, continuer à vivre n'importe comment, puis à ne pas se remettre en question et à ne pas présenter sa vie devant le Seigneur. C'est un piège. C'est un piège pour plusieurs croyants. Certains pensent que c'est le temps qui change ta vie. Certains pensent que, oh, moi, écoute, ça fait 18 ans que je suis chrétien, pasteur David. 18 ans! Plus besoin de ça, moi, de la repentance. Je suis rendu que je sais comment ça marche. Je suis rendu bon là-dedans. Mais vous savez, le temps n'est pas nécessairement un allié dans la sainteté. C'est-à-dire qu'on a besoin régulièrement de venir devant Dieu et de dire, Seigneur, j'en suis où? Parce que nous sommes encore de nature pécheresse et nous avons besoin de repentance. Nous avons besoin de faire un ménage intérieur. Combien ici vous faites ça d'un ménage de printemps? Laissez-moi voir vos mains. OK. Une main timide de Yves Bergeron. Je sais pas si vous êtes comme moi et ma femme comme nous. Est-ce que vous êtes du genre à accumuler du stock chez vous? On s'en rend pas compte jusqu'au jour où on déménage. Quand j'habitais dans Charlevoix, à la Malbaie, on a bâti après ça une belle maison à Sainte-Cyrénée dans un village. Et la maison n'était pas prête pour quand on quittait la maison de la Malbaie. Donc, on a loué une maison pour l'entre-deux, vous me suivez? Et là, je me suis dit, OK, on va faire quoi avec tout ce qu'on a, tous nos biens? On avait deux jeunes enfants. Les enfants, ça aide à accumuler du stock en passant. C'est tout de leur faute. C'est de leur faute, puis c'est de la faute des grands-parents qui amènent du stock pour les enfants. Alors là, je me suis dit, OK, bien, on a trop de stock, on déménage, on va dans une maison de location, on débarrasse. Donc là, j'ai commencé à faire le tour pièce par pièce de façon méticuleuse. Tout ce qu'on n'utilise pas, tout ce qu'on n'a pas besoin, on fait quoi avec? On le vend, on le donne en quelque part ou on le jette si c'est plus bon. Et j'ai commencé à faire ça et c'est devenu un travail fastidieux et compliqué qui me volait ma joie et mon temps. Il fallait que je remplisse ma voiture de tout le stock qu'elle est donnée au sous-sol de l'église. Je remplissais ça. J'ai fait plusieurs voyages. Écoutez, là, c'est de l'énergie là pour des biens matériels qu'on n'utilise pas, qui sont chez nous, qui envahissent notre espace mental et physique. Ah, ça fait du bien un matin. Ah, ça fait du bien de prêcher. Je sais pas si vous, ça vous fait du bien. Moi, ça me fait du bien. Ça me libère. Et là, j'allais porter ça, là, je déchargeais ça dans le sous-sol, puis il y a des escaliers à l'église catholique à la Malbaie. Là, je descendais avec les boîtes d'affaires. C'est vraiment des affaires, que tu n'utilises pas, que tu as de trop. Souvent, le haut de nos armoires de cuisine, là, ça ne sert à rien. Ça ne sert tout à rien. Ah, c'est pour Noël? Non, tu n'en sors même pas à Noël. Et là, on a débarrassé de tout ça. On est parti dans la maison de location. On a emménagé dans l'autre maison à Sainte-Cyrénée. Puis quand je suis revenu à Drummondville, je me suis dit, ah, c'est pas pire. J'ai déjà fait le grand ménage il y a quelques années de ça. Pas besoin de refaire de ménage. Hey boy. Encore une fois, accumulation, accumulation, accumulation. Aujourd'hui, ce matin, ça fait combien de temps que tu accumules dans ta vie, dans ton cœur, dans ta vie personnelle? Ça fait combien de temps que tu n'as pas fait de ménage dans ton cœur? Que tu as accumulé des mauvaises habitudes? Que tu as accumulé des dépendances, des problèmes non réglés, du manque de pardon, des péchés qui doucement se sont introduits dans ta vie? J'aimerais déclarer aujourd'hui, c'est le temps du ménage de printemps. C'est le temps pour chacun d'entre nous, qu'on soit ici pour la première fois, qu'on soit des chrétiens, de dire « Seigneur, aujourd'hui, je fais l'inspection de mon cœur. Puis ce qui ne marche pas dans ma vie, Seigneur, je viens l'amener devant toi. Je viens me repentir. » Parce que le baptême représente ça. Une mort à mon ancienne vie et une nouvelle vie avec Jésus. Est-ce que je peux entendre un « Amen » ? J'arrive à mes derniers textes ce matin. J'ai invité les musiciens à revenir. On va prendre un temps pour chanter ce matin. Dans Hébreux 3, le verset 7, ça dit ceci. C'est pourquoi, comme le dit le Saint-Esprit aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur comme lors de la révolte. Et ce matin, j'ai vraiment à cœur de vous dire, n'endurcis pas ton cœur ce matin. Fais pas juste écouter ce message-là puis faire comme si j'avais rien dit. Fais pas juste écouter ce message-là puis faire comme si la parole de Dieu ne t'avait pas été prêchée ce matin. S'il vous plaît, n'endurcis pas ton cœur. Parce que ça aussi, ça arrive chez plusieurs chrétiens, surtout de longue date, où on est habitué d'entendre toutes les mêmes affaires. « Ah, j'ai déjà entendu ça, un message de baptême d'eau ou de repentance, puis tu repars chez vous. » Ce matin, je ne te dis pas, Je veux pas juste que tu dises, que tu te dises, j'ai déjà entendu ça, mais je veux que tu te dises, qu'est-ce qui a besoin de changer en moi? Qu'est-ce que Jésus veut venir changer, transformer dans ma vie? S'il vous plaît, n'endurcis pas ton cœur. Le verset 12 nous dit, faites attention, frères et sœurs, qu'aucun de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule qui le détourne du Dieu vivant. Au contraire, encouragez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse, trompé par le péché. Et ce matin, ma prière, c'est qu'on puisse tous ensemble faire ce ménage en nous et laisser Jésus faire ce ménage en nous. Et dire, Seigneur, fais ce que tu veux dans ma vie. Si c'est de quoi qui ne marche pas, viens, prends-le, change-le, transforme-le. Fais ce que tu veux dans ma vie aujourd'hui. Dernier texte de la matinée, c'est Luc 15, verset 7, qui dit ceci. De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de changer d'attitude. La Bible nous déclare qu'il y a une joie au ciel. Oui, quand tu donnes à un pauvre, oui, quand tu parles de Jésus. Il y a une joie dans le ciel, la Bible dit, quand un pécheur se repent. Ça touche le cœur de Dieu. Quand un être humain décide de s'humilier devant Dieu, décide de s'agenouiller devant Dieu et dire, Seigneur, j'inspecte mon cœur puis je vois qu'il y a des affaires qui ne marchent pas. Puis Seigneur, pardonne-moi. Puis Seigneur, aide-moi à changer. Aide-moi à changer de direction. La repentance, c'est que je marchais dans une direction et je fais un 180 degrés. Je marche dans la direction opposée. Et ce matin, il y a des gens, tu as besoin de changer de direction. Tu as besoin de te repentir, de te tourner vers Jésus. Tu as besoin de faire le point dans ta vie chrétienne, dans ta vie spirituelle. D'autres personnes, vous êtes peut-être ici pour la première fois, les premières fois. Tout ça est un peu nouveau pour toi. Mais ce matin, tu as aussi cette possibilité de découvrir l'authentique, de découvrir Jésus, de connecter avec celui qui est extraordinaire, celui qui a vaincu la mort, celui qui t'aime, celui qui peut pardonner tes péchés, celui qui peut combler le vide dans ton cœur. Tu peux connecter avec lui aujourd'hui. Alors, je ne te dis pas de changer de religion, je ne te dis pas de signer en quelque part. Je te dis juste ce matin d'ouvrir ton cœur puis de recevoir Jésus en passant par le chemin de la repentance qui est de reconnaître nos erreurs, nos torts et de demander pardon à Jésus. Alors ce matin, je vais t'inviter en terminant, si tu veux bien, juste à fermer les yeux un instant, te recueillir. Ferme tes yeux un instant puis ici pour la première fois ou ça fait quelques fois que tu viens, mais que tu n'as pas encore pris cette décision ou tu n'as pas encore vécu ce moment de recevoir Jésus dans ta vie. Nos trois baptisés ont vécu ce moment-là il y a un an environ. Les trois, ils ont dit dans le témoignage, il y a un an environ qu'ils ont pris cette décision de laisser entrer Jésus dans leur vie. Et ce matin, c'était dans ce lieu que tu n'as jamais fait ça encore. J'aimerais te donner cette chance, cette opportunité, de prendre cette décision-là. Moi, je l'ai fait, j'avais 12 ans, et ça a changé complètement, ça a bouleversé ma vie. Et ce matin, c'était dans ce lieu. T'aimerais ça, tu comprends peut-être pas tout, t'as peut-être plein de questions, et c'est correct, et c'est normal. Mais ce matin, c'était dans ce lieu, puis t'aimerais toi aussi découvrir ce Jésus. Une religion qui est authentique, qui est vraie, qui change tout. Qui change ta vie. Une personne qui change ta vie, c'est Jésus. Tu aimerais le recevoir, tu aimerais toi aussi vivre spirituellement pour de vrai. Que le vide de ton cœur soit enfin comblé. Donc si c'est toi ce matin, je t'invite simplement, alors qu'on a les yeux fermés, je t'invite simplement à lever une main devant Jésus et à dire, moi j'aimerais te recevoir dans ma vie, Jésus. Je comprends pas tout, mais je te reçois. Je te reçois dans ma vie. Lève ta main maintenant. Déjà des mains qui se lèvent dans ce lieu. Lève ta main devant Jésus. L'important, ce n'est pas tant la main levée que le cœur sincère. C'est un moment déterminant qui peut vraiment tout transformer dans ta vie. Si tu as levé la main, tu peux la rebaisser par la suite. Est-ce que quelqu'un d'autre voudrait ce matin donner sa vie, donner son cœur à Jésus, s'approcher de lui pour une première fois? Ou encore aurait besoin de revenir à Christ? Tu t'étais éloigné de lui. Tu as déjà connu le Seigneur, mais tu t'étais éloigné pour différentes raisons. Mais ce matin, c'est ton jour où tu reviens à lui. Est-ce que quelqu'un d'autre a besoin de venir ou revenir à Jésus? Tu peux lever ta main devant lui et dire, « Je suis cette personne, prie pour moi ce matin. » Quelqu'un d'autre qui voudrait lever la main pour recevoir Jésus. Yes. Ce matin, nous allons terminer avec un mot de prière. Par la suite, on va chanter un dernier chant. Et pour tous les chrétiens dans ce lieu, je t'invite vraiment à prendre ce moment, à profiter de ces quelques minutes qui restent pour inspecter ton cœur, pour faire un ménage de printemps dans ta vie, dans ton cœur. Et si Dieu, le Saint-Esprit, pointe quelque chose en toi, vraiment, je t'encourage à ne pas t'endurcir, mais à dire, Seigneur, fais ce que tu veux. Prends-moi, pardonne-moi, transforme-moi. Est-ce qu'on peut tous se lever ensemble ce matin en terminant cette matinée? Dans un instant aussi, on va accueillir les baptisés, mais juste avant, on va prendre un temps pour chanter, prendre un temps pour prier, pour s'approcher de Jésus ce matin. Alléluia. On peut chanter ensemble.